Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
Interview.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Je suis sur le site de l'entreprise Brun Cosmo Bruni, BCB, sise à Borrières, qui travaille dans le bâtiment travaux publics, enfin si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Et dont le patron, Philippe Brun, va participer la semaine prochaine à l'opération Une semaine, vos expériences, votre réussite, qui aura lieu surtout au Palais Social entre le 7 et le 11 octobre. Et c'est une opération qui a été initiée par la Chambre de commerce et d'industrie et la communauté de communes du Diois. Monsieur Brun, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez été invité à participer à cet événement pour partager votre expérience en tant que chef d'entreprise. Par quoi pourriez-vous synthétiser ce qu'est la vie d'un patron aujourd'hui et qu'est-ce qu'être chef d'entreprise de nos jours ?
Je ne peux pas y répondre comme ça. Chef d'entreprise, c'est à la fois une passion, la passion d'un métier. On peut difficilement répondre comme ça en une phrase. C'est la passion d'un métier, voilà. Et puis après, il faut développer, voilà.
Alors, parlons du métier de cette BCB.
Oui.
Quel est-il exactement ?
Mais nous, on essaie de servir nos clients en ce qui concerne le bâti de A jusqu'à Z, c'est-à-dire du captage d'eau potable, hein, qu'on a tous besoin, jusqu'à l'assainissement des eaux usées. Et entre les deux, eh bien, on fait tout. Les chemins, les ouvrages d'art, les maisons, les bâtiments agricoles, les bâtiments industriels. Voilà, on fait toute la filière du BTP. Voilà, et on fait ça depuis donc 37 ans, comme je vous disais. Ça paraissait saugrenu il y a quelques décennies, puisque on est dans un pays où on aime bien mettre les gens dans les cases. Hein. Le maçon fait de la maçonnerie, le charpentier fait de la charpente. Et bien moi, j'ai une formation de technicien exécution de travaux. J'ai travaillé dans des grosses entreprises nationales avant de m'installer en septembre 76. Donc mon métier, je considère, c'est la totalité du geste de bâtir. Voilà. Donc le geste de bâtir, c'est, comme je vous disais, ça commence par amener de l'eau aux gens, évidemment, dans une maison. Ça, bien sûr, on continue par faire la maison. Et puis on fait tout ce qui est autour. Voilà. C'est pas compliqué quand même.
Ça n'a pas l'air, mais ceci dit, en proposant tous ces services, ça veut dire que vous avez besoin de beaucoup de compétences différentes.
On a besoin de beaucoup de compétences différentes, c'est certain, et on les trouve difficilement. Voilà. Mais c'est un métier tellement passionnant que les collaborateurs qu'on prend, pour certains relativement jeunes, ils apprennent le métier. Et bon, on a évidemment un charpentier, ne fait pas de VRD, quoique. Mais VRD, c'est voirie réseau d'hiver, hein, pour comprendre. Mais quoique, un terrassier peut monter sur une charpente s'il a besoin d'un coup de bourre. Voilà. Donc on a des gens polyvalents. Moi, je suis très content des collaborateurs qu'on a. On fait une équipe d'enfer. Vous m'avez posé la question tout à l'heure hors micro. On rayonne sur 6 départements. C'est pour ça que je vous dis que Borrières, ce n'est pas un handicap. C'est au contraire, aujourd'hui, plutôt un atout. Parce qu'on dessert à la vallée du Diois, qui est assez enclavée. Hein. Vous voyez, l'histoire se retourne. C'est-à-dire, quand je me suis installé en 76 ici, on était au bout du monde, c'est certain, puisque le téléphone était encore, vous voyez, avec l'opératrice, vous imaginez. Et on descendait sur la vallée de Die. Au jour d'aujourd'hui, Die, vous voyez que c'est enclavé. Nous, on rayonne, on va de Briançon à Fos-sur-Mer, on va autour de Grenoble, on va en Ardèche, vous voyez, ça nous ouvre des portes, voilà.
Du point de vue intendance, ça suit pour envoyer
des... C'est une question d'organisation. Regardez les groupes nationaux, ils sont basés à Valence, ils sont basés à Lyon, ils descendent faire des chantiers. Mes collègues font des chantiers dans le sud de la France. Il n'y a plus ce problème de distance qu'il y avait avant. Et on arrive à gagner de l'argent. Voilà, le tout, c'est de se lever les fesses, c'est tout.
Voilà. Alors, vous avez brièvement évoqué le fait que vous aviez du mal à trouver des collaborateurs. Alors, pour corroborer vos dires, j'ai entendu ce matin une étude de je ne sais quel organisme qui disait qu'effectivement 400 000 postes par an ne trouvaient pas preneurs et qu'en particulier les premiers critères étaient l'inadéquation des compétences, le manque d'attractivité des métiers proposés et un problème de fluidité de déplacement des salariés. Vous avez aussi du mal à trouver du personnel ?
On a beaucoup de mal à trouver des collaborateurs. Il faut dire que la législation du travail n'est pas favorable à l'entrepreneur. Enfin, je vais vous faire une différence entre le patron tel qu'il est défini dans les années 50 et l'entrepreneur. Hein ? L'entrepreneur, il y a une notion de passion, il entreprend, c'est d'ailleurs dans le mot, on entreprend, donc on entreprend parce qu'on est passionné, parce qu'on veut aussi gagner sa vie, bien évidemment, il ne faut pas non plus négliger ce côté-là. Mais le moteur étant bien sûr de gagner sa vie, mais en dehors de ça, le moteur c'est le métier qu'on fait, le métier qu'on aime, vous voyez. Donc le fait qu'effectivement on ne trouve pas de collaborateurs, c'est parce qu'on a dénigré nous dans nos métiers pendant des décennies ces métiers. Vous voyez, un plombier, encore que maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de et encore, j'en suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de collaborateurs dans ce métier, mais nous, dans nos métiers, vous dites que vous êtes maçon. Par exemple, moi, j'ai le titre de maître artisan maçon. Si je me présente que je suis maçon, on ne vous regarde pas de travers, mais presque, vous comprenez. Il vaut mieux être informaticien, il vaut mieux être travailler dans les bureaux, c'est une évidence. Alors le sommet, bien sûr, c'est d'être fonctionnaire, bien sûr, ça c'est le sommet de la hiérarchie de la réussite, vous voyez.
Donc vous regretteriez un aiguillage inadéquat de la formation des jeunes générations ?
Je pense que l'éducation nationale, pendant les années 50, a pensé que c'était plus à nous, Français, de faire ce travail. Voilà, donc on a embauché des gens, on a fait venir. Moi, je suis témoin, puisque quand j'étais stagiaire, j'étais à l'Office mondial de l'immigration, chercher des Turcs pour travailler sur les chantiers. Voilà, j'étais envoyé par mon entreprise pour aller les chercher. Je pense que voilà, on a dit les Français, faut qu'ils soient cultivés, intelligents, voilà, faut qu'ils fassent des études, voilà. Et effectivement, on voit le résultat aujourd'hui. Voilà, le résultat aujourd'hui, c'est que nous, on a un métier où je pense que vous pouvez interroger mes collaborateurs, ils gagnent leur vie, ils sont satisfaits. D'ailleurs, sinon, ils seraient plus là. Et ils n'ont pas forcément fait forcément de hautes études, voyez. Bon, donc on peut gagner sa vie très bien, avoir une vie extrêmement sympathique dans le travail qu'on fait, voilà. Et dans d'autres métiers, il y a bien d'autres métiers où il manque des gens, voilà. Je vous dirais la métallerie. Je viens de téléphoner à un métallier là pour une benne de camion. Il m'a dit, mon pauvre, j'ai deux gars malades, c'est catastrophique. Mais je dis, mais attendez, vous êtes à Valence, vous êtes, attendez, ben c'est un emploi à Valence quand même. Puis en plus, il y a 3,5 millions de chômeurs, tous ces pauvres chômeurs, rendez compte. Vous ne voulez pas les embaucher, mais il me dit, personne ne veut venir travailler, monsieur, dans la métallerie. Vous voyez, donc, bon, il y a quand même un problème. Mais il ne faut pas l'évoquer, ce n'est pas bien pensant d'évoquer. Vous voyez ? Pas bien pensant.
Alors, combien de salariés avez-vous au sein de votre entreprise ?
Je vais vous dire à peu près une vingtaine, voilà.
C'est pas précis ?
Non.
Vous employez peut-être des sous-traitants qui...
Et oui, on a des gens qui travaillent avec nous, oui, oui, par chantier, comme ça, voilà. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Disons que nous avons des gens pour satisfaire nos clients dans tous ces domaines de la construction, voilà.
Et cette vingtaine de personnes, vous avez dit qu'ils étaient satisfaits, donc ils sont fidèles, vous n'avez pas besoin de les retenir, ils sont là avec vous depuis un bout de temps, il n'y a pas de turnover.
Il y en a obligatoirement, principalement pour les jeunes, du DIY, vous savez, c'est dans la mentalité française, c'est l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin, donc effectivement, un citadin, c'est un mauvais exemple, parce qu'il va rester dans sa cité, mais souvent les gens qui sont à la campagne veulent monter à la ville, voilà, c'est vieux comme le monde, ça, vous comprenez, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe, hein. Bon, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais nous, les citadins, ne reviennent pas, voilà. Ne reviennent pas parce que je ne suis pas sociologue, vous devriez interviewer un sociologue ou un psychologue, j'en sais rien, pour expliquer ce phénomène. Moi, j'ai ma petite idée sur ce phénomène, hein. C'est-à-dire qu'on est, vous voyez, quand vous prenez le métro à Paname, vous vous apercevez que, voilà, vous êtes entouré de gens qui ne vous sont pas du tout sympathiques, mais vous êtes entouré, il y a quelque chose de rassurant, vous savez. Quelque chose de rassurant. Ici, vous avez affaire, devant vous, vous avez la nature, donc c'est quelque chose de... Vous voyez, c'est déjà... Il faut peut-être...
On en revient à votre problème de trouver du personnel, en fait.
Voilà, tout à fait.
Et ça a l'air d'être
à ce point criant. Je ne suis pas seul. Oui, bien sûr, bien sûr.
Là, présentement, vous embaucheriez.
Ah ben oui, bien sûr. Vous voyez, les dossiers sur ce bureau, on cherche un collaborateur pour effectivement nous aider dans ces tâches, non pas administratives, bon, administratives, bien sûr, mais techniques, voilà. Quand on fait une maison, c'est assez technique, il faut faire les plans, puisque nous, on a un bureau d'études intégré à l'entreprise. On fait des stations d'épuration, on fait des retenues collinaires en montagne, dans des endroits relativement inaccessibles. Voilà, que vous dire, on fait de l'assainissement, de l'eau potable, comme je vous ai dit.
C'est quand même un collaborateur assez compétent que vous demandez.
Non, c'est quelqu'un qui a envie, voilà.
Vous le formeriez.
Mais on forme, attendez, on a, on pourrait demander à Fabrice qui est à côté, on a, je pense, 4 ou 5 apprentis en ce moment dans l'entreprise. Des gens qui viennent pas que d'Idiwa, quoi. Hein. En fait, on n'est que des passeurs, en fait. On a appris le métier des anciens. On fait notre part et puis on va passer le métier à des jeunes. Voilà. Bon, donc il est du rôle d'une entreprise de gagner de l'argent, bien évidemment, sinon dépose le bilan, mais aussi de former des gens. Voilà. Bon, pour qu'ils prennent la suite. Non, ça ne paraît pas logique.
Tout à fait. Voilà. Surtout qu'on aura tout le temps besoin de plutôt, fabriquer des maisons.
C'est plutôt notre métier, puisqu'on s'aperçoit que l'éducation nationale ne fait pas ce métier-là. Hein. L'éducation nationale, c'est généraliste. On vous dit, voilà. Nous, on a eu même des jeunes ingénieurs qui sont venus et bon, j'ai trouvé qu'ils avaient un défaut de compétence. On me dit, mais c'est normal, ils apprennent à apprendre, vite. Ah, bon, je m'incline, hein, voilà. Donc, si vous avez des gens, même un polytechnicien, on serait pas contre. Vous voyez, on n'est pas sectaire, on est ouvert à tout.
Qui sont vos clients, en général ?
Les donneurs d'ordre principaux, oui, c'est les collectivités locales, le département, enfin les départements, puisqu'on travaille dans le 05 aussi, Parc du Vercors, je ne sais, je ne vais pas tout vous les citer, les communes, bien évidemment, aussi beaucoup les agriculteurs, on travaille beaucoup avec les agriculteurs, avec le pastoralisme, donc avec tout ce que ça veut dire.
Des chalets d'alpage ?
Oui, exactement, des chalets d'alpage. On fait des maisons, on a été les premiers à faire une maison, un bâtiment à Manosque en paille de lavande, avec une garantie décennale. Donc on fait des maisons, j'ai horreur du mot écologique parce que je pense que tout le monde fait de l'écologie et personne n'en fait, on fait des maisons saines, voilà, on essaie de faire des maisons les plus saines possibles et d'employer les matériaux les plus sains possibles, tout en respectant les normes, parce que nous sommes contraints, vous le savez, nous entreprises, par des normes, voilà, donc on essaie de faire la part des choses, et ça fait des maisons, vous voyez les premières maisons en briques, ça va faire 30 ans qu'on les a fait, peut-être même plus, un peu plus, hein. Voilà, donc sans publicité tapageuse, on fait des maisons saines. Voilà, c'est aussi notre fonds de commerce quand même.
Alors sans suivre la mode écologique, vous avez une cellule de veille pour suivre un peu toutes les évolutions en termes de nouveaux matériaux, etc.
C'est un métier extrêmement traditionnel. On ne réinvente pas la poudre. Voyez, ceux qui réinventent la poudre, méfiez-vous-en. Voilà, on ne réinvente pas la poudre. On progresse gentiment. Les Romains avaient inventé le plomb bien avant le 19e siècle. Donc, on se réapproprie des choses qui existaient. Quand on dit on fait une maison en paille, est-ce que vous croyez que c'est révolutionnaire de faire une maison en paille ? La paille, ça existe depuis, je ne sais pas, hein ?
Non, mais il y a quand même des nouveaux matériaux. Ne niez pas, par exemple, ne serait-ce que le triple vitrage, on n'en parlait pas il y a 15 ans.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a des nouveaux matériaux, mais ça, c'est les nouveaux matériaux, on y est dedans en permanence. En plus, avec Internet, je veux dire, on suit très facilement. Nous, on va dans les salons. Je veux dire, on est un métier, effectivement, où on a quand même une base qui est relativement ancienne. Hein. Vous faites une maison avec des fondations, voilà. Sur les fondations, après, vous mettez du bois. Ben, nous, on fait beaucoup de maisons en bois, par exemple, avec de la laine de bois, tous les matériaux dont on a à disposition. On a essayé de se battre pour faire des bâtiments, des maisons en paille. C'est pas très évident dans la mesure où la réglementation n'a pas normé. Il y a des cahiers, mais il n'y a pas de DTU véritablement. DTU, c'est ce qui règle notre profession, hein, c'est ce qui régit notre profession. Et en matière de chauffage, il y a une certaine révolution, effectivement. En matière d'électricité, on emploie, par exemple, quand on faisait allusion au chalet d'alpage, on emploie beaucoup, nous, de photovoltaïque. On a fait une station d'épuration sur la commune de Lèche, qui est fournie en photovoltaïque, avec dedans un robot qui, effectivement, gère la station, donc effectivement, on peut considérer que ce sont effectivement des nouveautés.
Comment faites-vous pour vous tenir au courant des évolutions ? Parce que vous me dites que vous fréquentez les salons, mais quand même, il faut se tenir au courant. Il y a tellement de choses qui fourmillent, non, de partout.
Non. Vous avez des fondamentaux. On parle de l'électricité. Après, on est quand même dans le DIY, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas de centrale nucléaire, par exemple, qu'on soit bien clair, vous voyez ? Bon. Donc, effectivement, notre technicité, elle va s'arrêter en matière de photovoltaïque. Bon, en matière de chauffage, Vous savez, on est en train de créer la révolution. On va réinventer la chaudière à bois. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Bon, voilà. Non, mais alors on a fait encore plus extraordinaire. On a dit, on va faire la sciure, on va faire des petites plaquettes de sciure et on va faire des poêles. Bon, vous pouvez parler, on peut dire que c'est des nouveaux matériaux. Mais faut pas exagérer. On prend les gens pour des imbéciles quand même. C'est l'évolution gentille. Assez calme d'ailleurs de notre métier, c'est pas fondamentalement révolutionnaire. Il n'y a rien dans ce métier de fondamentalement révolutionnaire.
Au bout de 37 ans d'activité de BCB, considéreriez-vous BCB comme une réussite?
Ah non, moi j'emploie pas ce mot, je sais pas ce que c'est ce mot, non.
Enfin, êtes-vous
non, la réussite, vous laissez au cadre de l'industrie, vous laissez aux industriels, vous laissez, voilà, bon, mais pas nous. Nous on fait notre métier, on essaie de le faire le mieux possible. C'est pas toujours facile, eu égard aux intempéries, aux délais très courts, des marchés publics. Je vais pas rentrer dans le détail, mais non.
Vous n'avez pas déposé votre bilan depuis 37 ans, que je sache.
Non, puis j'espère que des collaborateurs continueront cette entreprise. Vous voyez, on est assez satisfait, on est assez content du travail fourni. Bien sûr, le travail qu'on fournit, on fait un certain chiffre d'affaires. À Borrières, on est satisfait, mais employer des mots comme ça.
N'êtes-vous point fier de ce que vous avez réalisé?
Je suis très fier. Non, mais quand je fais un bâtiment, je suis très fier. Voilà, je suis très fier. Quand je fais une bergerie, je suis très fier. Je fais un chef d'alpage, je suis très fier. Voilà, vous voyez, on est des gens simples, vous voyez, on est fier de ce qu'on fait. Bon, mais on essaie de le faire bien quand même, Puis quand on fait une connerie, ça arrive à tout le monde. Et on la rectifie, voilà, et puis on essaie d'expliquer aux clients que c'est la vie, et que voilà, et on arrive, et on, voilà.
Alors, qu'est-ce qui ferait que cette entreprise, je n'emploie surtout pas le mot de réussite, tourne bien, alors?
Il y a la cohésion de l'équipe, bien sûr, des collaborateurs qui passent du temps à faire bien les choses, qui sont contents, parce qu'on fait des chantiers qui sont des belles choses, voilà, comme je vous dis, on est fiers. Mais ça n'a rien à voir avec la réussite, la fierté, je pense.
Est difficile d'être fier d'un échec, mais c'est possible.
Mais la réussite, c'est pas le mot qui me vient dans l'esprit. Voilà, on fait notre travail, on essaie de le faire bien, de satisfaire nos clients. Et voilà. Et avec le temps, on y arrive. Voilà. Que vous dire de mieux?
Comment trouvez-vous vos clients? Vous avez une équipe de commerciaux?
Eh bien, le commerce, il se fait ici. Par le passé, j'étais le seul à aller sur le terrain, voir les clients. Aujourd'hui, on a encore plus d'activités. Donc, Fabrice, qui est avec moi, on se partage un petit peu les tâches. J'ai le bonheur d'avoir une collaboratrice qui est très efficace, qui s'appelle Isabelle, qui répond et qui fait que le client est satisfait des réponses. Et après, on a une méthodologie de travail. Les gens téléphonent, on décrit le projet, voilà. Si c'est dans l'agriculture, on envoie un devis. Après, on se déplace. Si ça intéresse les gens, vous voyez, il y a un cheminement. Mais bon, je ne vais pas vous apprendre le commerce.
Je suppose que votre réputation joue beaucoup dans ce domaine.
La réputation, vous savez, ça ne veut rien dire, la réputation. On a eu fait une maison il y a 37 ans, donc 36 ans. On a mis un an à la faire, une belle maison au-dessus de Pontet. En pierre, en ciporex, tout clé en main avec les fondations, on a tout fait, ça ne nous a apporté aucun client. Donc la réputation, oui.
Si vous aviez la réputation de travailler de travers, ça finirait par se savoir et les clients ne...
Oui, bien sûr. Ouais. Oui.
Donc je suppose que si ça continue à affluer, c'est que vous avez plutôt une bonne réputation.
Écoutez, on espère, voilà, bon, oui, on l'espère. Et c'est vrai que nous, on a du travail, faut reconnaître, quoi.
Vous travaillez il y a combien de temps devant vous?
Je ferai la même réponse que mes collègues, puisque au syndicat, on nous pose la question. On a 4-5 mois, voilà.
C'est suffisant pour être décontracté?
Ah non, on n'est pas décontracté du tout, parce qu'on se fait du souci pour cet hiver. Vous savez qu'on va aborder une période électorale où là, on n'a plus rien à faire pour les collectivités locales. Donc il faut quand même, il faut quand même leur amener le chiffre d'affaires. Pour reprendre l'expression de mon ami Alain Lecoq, il faut avoir la tête dans le guidon, voilà. La tête dans le guidon en permanence. Mais comme on est des passionnés, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est la passion en fait. Vous voyez, c'est comme une histoire d'amour, c'est la passion qui mène. Là, c'est pareil. Le jour où moi, j'aime plus ce métier, je crois que, vu mon âge, je pense que ça n'arrivera pas, mais faut faire autre chose, voilà. Et je pense que c'est ça qui manque à une partie des gens, vous voyez. Faut redonner aux gens l'envie, voilà, c'est ça qui est terrible. L'envie de faire, vous voyez, l'envie de faire, l'envie de... C'est ça qui est un peu terrible ici, quand même. Hein. Ce qui reste d'une civilisation, c'est son bâti et ses livres. Le reste, voilà. Donc nous avons fort à faire, quand même, voyez, nous, les bâtisseurs. Donc, c'est un métier qui n'est pas anodin, on en parle comme ça, en décontracté. C'est un métier qui n'est pas anodin. Et c'est un métier, quand vous avez plongé dedans... voilà, et si vous avez compris, comme beaucoup de choses, vous voyez, comme des gens qui sont passionnés par la musique, voilà, bon, bah, vous, là, il est rentré dedans, voilà. Ouais, c'est extraordinaire, vous vous rendez compte, quand moi je dis aux clients, bah voilà, vous, on va vous faire une maison, dedans vous allez faire des enfants, c'est pas anodin quand même, vous voyez. Il faut l'avoir en tête, moi quand je vais voir un client, je l'ai en tête, ça. Donc de tout faire pour effectivement le satisfaire, dans la limite bien sûr. Ce qu'il veut de nos budgets, etc., etc. Mais vous voyez, ce qui... C'est pour ça que c'est... on peut difficilement l'expliquer. Je vous aurais bien expliqué tout ça, effectivement, parce que je pense que c'est ça qui fait que moi, mon métier, je l'aimais parce que j'ai rencontré des professeurs qui étaient passionnés par les mathématiques, par le dessin. Et donc, la passion, elle se passe comme ça. Et j'aimerais bien, effectivement, passer cette passion. C'est pour ça que vous voyez qu'on travaille en open space dans notre bureau. Ce qui fait râler mes collaborateurs parce qu'on est trop serré. Mais à la fois, on se transmet la passion. Il n'y a pas de vie, à mon avis, sans passion. Et c'est pour ça que je trouve très triste que cette région soit devenue, effectivement, un globe dans lequel les citadins vont venir se rafraîchir. Voyez, voyez. Donc ça va être le nouveau Luberon. Et puis à côté de ça, il y a les gens dont on parlait tout à l'heure qu'il ne faut pas évoquer parce qu'il faut être bien pensant. Il faut être surtout bien pensant. Hein. Voilà. Donc.
Alors, je vous prie de m'excuser si je diverge un tantinet. Néanmoins, vous m'avez dit qu'un des secrets de votre entreprise, c'est de proposer une offre un peu transversale sur plusieurs métiers.
La Fédération du bâtiment et des travaux publics a appelé ça, ça fait une grande révolution, a appelé ça l'offre globale.
L'offre globale.
C'est joliment dit quand même. Il fallait quand même des technos pour inventer ça, vous voyez, quand même. Parce que nous, les petites gens, on n'aurait pas pu inventer. Là où nous, on le fait. Voilà, la différence.
Et là où je voulais en venir, c'est quels sont vos concurrents, en fait, puisque vos concurrents...
Mes concurrents
sont... Oui. Hein. Vous en avez beaucoup.
Mais je n'ai que des concurrents. Mais bien sûr, on a beaucoup. On a...
Mais les
gens viennent jusqu'ici, je veux dire, les concurrents, vous avez du gars qui a, en charpente, vous avez par exemple du gars qui a touché un bout de bois qui se dit menuisier, l'autre qui a touché un bout de laine de bois qui se dit éco-constructeur, je peux vous en citer comme ça à l'appel.
Donc elle est féroce, la concurrence
est féroce. Elle est féroce, les prix baissent, elle est féroce, oui, c'est la guerre, c'est une guerre économique. Et moi je vous raconte une belle histoire, mais en fait c'est une guerre économique quand même, hein. Il y a les nationaux, les entreprises nationales qui sont nos concurrents. Il y a des entreprises régionales.
Alors quel avantage avez-vous par rapport à ces concurrents ? Alors, c'est justement cette cohésion de l'équipe et cette motivation et cette passion.
L'avantage, je ne sais pas. C'est que, bon, vous savez, quand on répond à un appel d'offres, on fait un mémoire de travaux. Il faut avoir le meilleur mémoire et le meilleur prix. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Donc, battez-vous, voilà. Donc c'est une guerre, voilà. Et puis alors, vous avez dans les élus, bah, des élus qui sont d'une extrême gentillesse, extrême compréhension, des gens extrêmement intelligents, qui comprennent qu'un pays sans entreprise n'est pas un pays. Voilà, et puis après, vous en avez d'autres.
Donc, vous avez quand même de temps en temps du soutien de la part et de la compréhension de la part d'élus.
Ah ben oui.
C'est important de le noter.
Ah mais c'est très important. Oui, c'est très important. Je pense que s'il y a une part des élus qui ne jouent pas le jeu avec nous, enfin, qui ne nous soutiennent pas, on est foutus, quoi. Il faut dire la vérité. Et il y a une autre part qui ne comprend pas toujours, quoi. Qui pense que... Enfin, bon. C'est qu'on est bouffé par l'administratif. C'est-à-dire, depuis qu'on a créé l'informatique, qu'on a dit ça va être zéro papier, c'est de pire en pire. On est bouffé par l'administratif.
Et puis l'histoire de normes aussi, qui sont innombrables.
Mais bien sûr, chacun prend un parapluie, un parasol, une tente de camping pour se couvrir, vous voyez. C'est hallucinant, quoi. Bon, voilà, il n'y a plus de marge de manœuvre. On dit que nous, vous savez, dans notre métier, on dit vous êtes avec l'architecte, l'homme de l'art, voilà. Bon, c'est une expression qui est employée, qui est d'ailleurs une réalité, puisque Contrairement à un commerçant qui va vendre, vous voyez, vous vendez quelque chose, vous n'avez pas de devoir de résultat. Hein. Nous, on a un devoir de résultat. Et je ne vais pas me comparer à d'autres professions qui sont bien encore plus dures que nous. Voilà. Mais on a un devoir de résultat et on n'a pas intérêt à se louper maintenant avec les normes, avec, vous voyez.
Les garanties décennales, etc.
Oui, bon, bien sûr, on a toutes ces garanties, bien sûr, hein, mais faut se battre avec ça. Donc ça, c'est très compliqué. C'est l'administratif qui nous bouffe, oui, c'est vrai, c'est vrai. On pète un câble, en général, à cause administratif. Et on dit souvent, quand on a résolu tous les problèmes administratifs, on a fait 50% du chantier, quoi, vous voyez. Donc c'en est à ce niveau-là, quoi. Hein. Vous avez des réunions de chantier, vous avez, je sais pas... Mais vous avez beaucoup de monde, on va dire. Hein, et vous avez trois gars qui bossent et vous avez une flopée de gens qui sont là, voilà.
Et ça se voit sur la répartition de votre personnel. Vous avez beaucoup d'administratifs.
Non, on n'a pas assez d'administratifs, non, pas assez.
Donc ceux qui.
Nous, il faudrait qu'on renforce l'administratif, mais on ne trouve pas parce qu'encore une fois ici, on est dans une région où les gens sont extrêmement surpris qu'on puisse. On ne croit pas que dans ces pays, il puisse y avoir des entreprises. Voilà, je pense qu'on ne croit pas. Le dynamisme d'un pays se fait par les entreprises. C'est capital de comprendre ça. Bon. On pense que ce pays, c'est pas fait pour les entreprises. C'est fait pour faire des loisirs, du tourisme, vous voyez.
Et on ne peut pas quand même non plus cracher sur le tourisme.
Non, mais je vous ai pas dit d'accord. Ça. Non, mais je vous ai pas dit ça. Moi, je vis grâce au tourisme. Les résidences secondaires qui me font travailler, je vis grâce au tourisme. Mais vous savez, c'est comme la balance de la justice, ça. À un moment donné, quand ça penche complètement d'un côté, ça ne peut plus fonctionner. Quand vous n'avez que des résidences secondaires dans un village, ça ne peut plus fonctionner. Vous voyez ? Qui va tenir la boulangerie ? Et qui va construire les maisons ? Qui va les entretenir ? Donc, vous voyez, qui va entretenir les terres ? Qui, parce que quand je vais voir mes clients qui sont dans les montagnes et qui gardent leurs bêtes, ils entretiennent la montagne. Et nous, quand on est le week-end, les promeneurs, on est très contents de voir cette montagne. Mais s'il n'y avait pas ces gens-là, par exemple, qu'on ne voit pas dans le paysage, vous voyez, qu'on ne les voit pas, eh bien, s'il n'y avait pas ces gens-là, on ne pourrait plus aller se promener. On ne pourrait plus, les sentiers ne seraient plus entretenus, les forêts, on ne pourrait plus y rentrer, vous voyez. On s'émerveille quand on va au sommet de quelconque, que ce soit de 1200 mètres à 4000 mètres, enfin peut-être pas à 4000, il n'y a plus de champs, mais il n'y a plus de prairies, mais on s'émerveille. Mais il y a des gens qui y travaillent. Vous voyez, ben nous, on est pareil, mais dans notre métier. Vous voyez. Il faut, et ça, on l'oublie. Voilà. On oublie ces gens, on oublie qu'il faut des entreprises. Donc, les gens n'ont pas dans l'esprit qu'il y a un dynamisme dans ces pays et que, voilà, il faut aussi des ingénieurs ici, des gens qualifiés, des gens qui ont été à l'école, voilà.
Non, il est un fait que, depuis un certain nombre de gouvernements, ils n'ont pas... effectivement, la réputation de soutenir, en tout cas, les petites et moyennes entreprises.
Mais ça, c'est sûr. Attendez, allez à Paname. On pèse quoi ? On est quoi, nous, voyez ? Par des Parisiens, on est quoi ? On est des gentils Indiens, avec une plume dans le cul, voilà. Mais vous avez entendu, dans l'histoire, les Indiens se révoltent, hein, quand même. Hein.
Vous l'envisageriez ?
Ah, mais c'est sûr. On s'est révolté quand on voulait nous fermer la ligne. Il y a eu plusieurs manifestations sur la voie ferrée, pour défendre nos collègues qui se font bouffer par le loup, ben voilà, oui, on peut se mobiliser, bien sûr, on se mobilise d'ailleurs, je pense, hein, les uns les autres de différentes manières, bien évidemment. Ce pays est merveilleux. Bon, il faut qu'on le défende. Et sans nous, quand je dis nous, sans les humains, il n'est plus rien. Voilà, c'est important de le dire, mais enfin, tout le monde rigole, hein, voilà, bon.
Alors, monsieur Brun. Vous avez un certain âge, je n'oserais pas l'évoquer en ces lieux. Néanmoins, avez-vous commencé à envisager la transmission de votre
années déjà,
entreprise
oui. Ah ben okay. Moi, j'espère que voilà, les collaborateurs vont continuer à travailler. Voilà. Après, la formule, c'est pas important.
C'est une SARL ?
Ben, malheureusement, on a commencé avec ma femme et des amis. Voilà, vous voyez, on a commencé comme ça il y a ces quelques années dont on parlait, voilà. Puis on a pris le travail comme il venait. Pendant 10 ans, c'était très, très difficile. En 10 ans, quand même. Hein. Ça marque, hein, 10 ans. Et puis le travail est venu, voilà. Et puis c'est pas arrêté. Je m'y suis donné. Et maintenant, mes collaborateurs, vous pouvez téléphoner. Vous allez voir. Vous allez être reçu avec amabilité au bureau par Isabelle ou Fabrice, voilà. Et voilà. Et je pense qu'ils sont passionnés aussi, vous voyez. Ça se sent, vous voyez. Les clients me le disent. On va dire, on a téléphoné chez vous. Oh là 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 là. Vous voyez. Et ça, je suis bon. On peut pas arrêter on peut pas arrêter une machine qui roule comme ça, voilà.
Oui, mais est-ce que vous connaissez le fameux proverbe portugais? Quand un poisson pue, il pue de la tête. Mais inversement, vous enlevez une tête qui structure une entreprise, l'entreprise devient orpheline.
Wow,
donc peut-être avez-vous insufflé un esprit qui pourrait.
C'est les carabistouilles, ça. Ah bon. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, bon, voilà.
Nul n'est indispensable.
Voilà. Bah oui, bien sûr.
Donc vous n'êtes pas indispensable.
Mais je ne pense pas, mais vous non plus, voyez, et les gens qui nous écouteraient non plus, malheureusement, d'une certaine manière. Hein.
Tout le monde s'en foutrait.
Non, tout le monde ne s'en fout pas, c'est pas ça. Je veux dire, voilà, c'est la vie, elle est faite comme ça, malheureusement. C'est qu'un jour, on va s'en aller, voilà. Ça me plaît pas bien, mais je suis un peu comme Cavana, voilà, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose avant, mais non, soyons réalistes.
Donc, les deux dernières questions que je vous ai posées, vous avez un petit peu éludé, c'est-à-dire, c'est une SARL
et puis... Non, c'est une SARL, j'étais artisan. J'ai eu le bonheur d'avoir rencontré sur mon chemin un inspecteur des impôts, de la police des impôts, qui m'a dit, monsieur, vous devriez transformer votre artisanat en société, ce que j'ai fait. J'ai suivi ses précieux conseils. Et voilà, on est une SARL, voilà. C'est moi et ma femme qui
vous les parts.
Voilà.
Et donc, ce ne serait pas très compliqué de les transmettre à la personne de confiance.
C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Mais,
ouais, je suppose.
Mais on est arrivé, comme disait l'autre, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, alors on va le faire. Hein, pas de raison. Voilà, c'est tout. Hein, bon.
Donc vous ne vous inquiétez pas. Pas plus que
je,
ça.
Non, je ne m'inquiète pas. Je suis en démarche.
Mais vous avez encore un certain nombre d'années d'activité devant vous?
Eh bien, si vous voulez, parce que nous, on a le bonheur de faire partie des 100 grades des besogneuses. Je veux dire par là que nous, notre retraite est calculée sur les 25 dernières années, vous voyez. Bon, pas sur les 6 derniers mois. C'est ce que visiblement on appelle l'égalité. Moi, je suis pour l'égalité. Donc, effectivement, on s'est aperçu qu'il faut continuer à travailler, voilà, un petit peu, quoi. Et puis, de toute façon, ne serait-ce que pour passer, voilà. Puisque nous ne sommes que des passeurs, il faut bien passer. Donc, il faut passer le flambeau, vous voyez, comme aux Jeux Olympiques, visiblement. Hein, voilà, on passe le flambeau. Vous voyez, on parle des gens qui se plaignent. Mais moi aussi, je me plains. Moi aussi, je me plains de payer pour mes collaborateurs trop de charges. Bien sûr, mais il faut dire la passion, voilà. Il faudrait que vous parliez de la passion, voilà. Vous voyez, comprenez ? La passion de la vie, la passion de ce qu'on fait. Moi, je me suis jamais emmerdé ici, vous vous rendez compte ? C'est terrifiant. Les citadins, quand ils descendent ici, ils me disent « Mon pauvre vieux, toi qui viens de Paname, pff, dis donc, qu'est-ce que tu vois, t'emmerder ?» J'ai pas une minute, je me suis emmerdé, vous voyez ? Entre une balade en montagne, entre une balade en moto, entre une balade à pied, entre, je sais pas, entre mon métier, entre aller voir un client avec Liki, on va manger un bout de lard à 8h du soir, vous voyez, c'est assez extraordinaire. On a cette chance de vivre ici une vie assez extraordinaire et on n'arrive pas à le faire comprendre à deux jeunes qui voudraient peut-être franchir ce pas que nous avons franchi parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que on fait partie d'une génération qui a été dans un mouvement dans un mouvement. Je ne suis pas un glorieux Indien qui est venu tout seul comme ça. On a fait partie d'une génération qui avait dans cet esprit de retour un petit peu, voilà, vous savez, voilà, hein, dans ces années 70-80, voilà. Donc, on a été aidé par ce phénomène, par le fait qu'on était quand même relativement nombreux. Vous voyez quelques exploitations agricoles, vous voyez quelques entreprises qui viennent de cette époque-là. Hein. Bon, comment refaire marcher ce train, vous voyez, je ne sais pas. Comment on peut nous aider, voilà. Ça me paraît capital, de faire comprendre aux jeunes qu'ici on peut vivre, très bien. Je pense que vous voyez, moi j'ai des collaborateurs qui... Je ne sais pas, vous pouvez les questionner, mais je veux dire, on a une vie qui est quand même... voilà, on n'a pas une vie aisée, mais on a une belle vie. On arrive financièrement à s'en sortir. Ah, ça, c'est un pari capital. Je ne sais pas qui peut le faire. Moi, je suis trop pris, vous voyez, mais... Pierre-Antoine Landel, qui était l'ancien directeur du district rural, avant d'être la communauté de communes, était venu ici, dans un petit centre de vacances qu'on a à Borrières, avec une classe de gens qui étaient en fac, voilà. Et la discussion, si vous voulez, c'était en s'adressant à moi, mais mon pauvre monsieur, oh là 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 là, c'est un peu la misère ici, qu'est-ce que vous faites? Oh là 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 là. Il me donnait presque la pièce au sortir. Alors je peux vous dire, je leur ai dit le reste. Hein. Je pense que quelque part, on arriverait à leur faire comprendre, Il faut évidemment peut-être l'état d'esprit ouvert. Pour ça qu'on est les derniers subversifs. Mais comme les derniers, il y en aura d'autres encore. Subversifs parce qu'on va à l'encontre des idées reçues, de la bien-pensance, vous voyez. Là, vous pourriez faire une émission là-dessus, ça serait intéressant. Je ne vous en dis pas plus.
Mais je pense bien que ça va suffire, Monsieur Brun. Peut-être avons-nous oublié quelques éléments dans ce tableau.
On a oublié beaucoup.
De cette discussion à bâton rompu avec vous sur le site de votre entreprise, aujourd'hui même. Mais donc vous aurez bientôt l'occasion d'en parler devant une foule bigarrée lors de cette manifestation. Une semaine, vos expériences, votre réussite. Et je vous souhaite une bonne continuation.
Eh bien écoutez, bien sûr, à vous aussi.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.